Voici venue l'heure du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, des effets de mode peut-être parfois un peu trop faciles à ses yeux. Aujourd'hui, Céline Picmal-Prade nous rejoint, la présidente de Picmal-Houghton Investment. Bonjour Céline.
Bonjour Guillaume.
L'or progresse de 13% cette année, le cuivre de 17%. Mais les plus grandes entreprises minières mondiales comme Newmont ou Barrick sont toujours en baisse là, cette année. Les minières en bourse, c'est donc foutu. Ah, ce discours, on l'entend beaucoup, mais vous n'êtes pas d'accord, vous dites même « bullshit ». Vous foudroyez. Cette idée que les mines en bourse resteraient plombées durablement. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. Il va falloir nous expliquer pourquoi.
Tout à fait, je ne suis pas d'accord. Vous parliez tout à l'heure des mal-aimés. Et effectivement, ces sociétés minières sont mal-aimées aujourd'hui. Mais je pense que dans notre métier, il faut suivre l'adage « follow the money ». Et ce qui est très intéressant pour ces sociétés minières, c'est qu'elles devraient publier d'excellents résultats, selon moi, au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on a eu un poids très fort qui est venu du fait que les coûts avaient progressé pour les entreprises minières, les coûts énergétiques, les coûts salariaux. Et donc, effectivement, on avait une pression sur les bénéfices qui venaient de cette augmentation des coûts. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les publications de résultats, ces entreprises minières qui ont parlé au cours des dernières semaines nous ont toutes dit « Écoutez, du côté des coûts, ça va mieux. La pression sur les salaires, elle est maîtrisée et on a réussi à mieux maîtriser nos coûts en mettant en place une automatisation, des sources d'amélioration de notre productivité. » Donc les coûts mieux maîtrisés et de l'autre côté, ben, on a vu quand même la progression des cours de bourse dont on parlait tout à l'heure, le cours de l'or, le cours du cuivre. Et quand on regarde en comparaison par rapport au trimestre, deuxième trimestre de l'année dernière, par exemple pour l'or, le cours de l'or a fait plus $260 entre le deuxième trimestre 2023 et aujourd'hui le deuxième trimestre 2024.
Mais les minières...
Donc on devrait avoir effectivement un effet ciseau très favorable et des publications de résultats qui devraient être, à mon sens, exceptionnelles pour cet été, pour ces minières.
Tout ce, voilà. tout ce que vous voulez. Vous venez plaider ici au potentiel des valeurs minières en bourse. Alors dans ce cas, on vous demandera tout à l'heure quelles valeurs minières il faut privilégier. Mais tout ce que vous voulez. Sauf que les minières, elles sont souvent présentes et elles sont actives dans des pays risqués. Voilà, il y a toujours des risques sur l'exploration. Une exploration qui coûte par ailleurs de plus en plus. Les contraintes environnementales aussi qui font que ces valeurs minières, n'étant pas ESG, elles sont exclues d'un certain nombre de portefeuilles. Il y a des vents contraires sur le potentiel des valeurs minières.
Il y a des vents contraires, mais justement, à mon sens, Guillaume, ce sont des vents favorables aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces vents contraires, ils ont conduit au fait que vous avez eu beaucoup, vous avez eu très très peu d'exploration minière au cours des 15 dernières années. Et ça, ça veut dire que vous avez une offre de métaux qui est très faible. On a eu effectivement des grandes difficultés à faire approuver une exploration minière. Not in my backyard, personne ne veut avoir une exploration minière dans son pays. Donc effectivement, on n'explore pas. De l'autre côté, une hausse des taux d'intérêt, donc du coup, vous ne pouvez pas trouver des financements pour explorer. Et puis finalement, si jamais vous aviez réussi à le faire, vous aviez des bilans pour ces entreprises minières qui étaient très peu sains. Compte tenu du fait qu'elles avaient beaucoup trop dépensé entre 2000 et 2010, il fallait qu'elles nettoient leur bilan et donc finalement elles ne l'ont pas fait. Donc pas de dépenses et du coup une offre qui est qui augmente de façon très faible pour ces entreprises minières à un moment où vous avez une demande qui augmente. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant.
Mais tout ce que vous voulez, la demande augmente, mais elle est cyclique, elle restera cyclique la demande.
Je suis d'accord.
Je me fais l'avocat du diable.
Tout est cycle, Guillaume. Mais effectivement, tout est cycle, mais je pourrais vous répondre la même chose sur la technologie. J'achète un iPhone, mais je n'en rachète pas un le lendemain. J'achète une voiture, je ne la rachète pas le lendemain. Mais on va me dire, oui, mais il y a un super cycle qui s'appelle l'intelligence artificielle. Eh bien, sur les métaux, on a, à mon avis, le même environnement aujourd'hui, qui est une demande qui va être indépendante du cycle. Pourquoi ? Parce que vous avez une demande qui vient venir des banques centrales. Les banques centrales aujourd'hui sont très peu présentes sur le marché de l'or. Vous avez uniquement 13% des réserves des banques centrales dans le monde qui sont en or.
Même si elles en achètent de plus en plus.
Elles en achètent de plus en plus, mais c'était 40% des réserves des banques centrales qui étaient en or il y a 40 ans.
Ah oui.
Aujourd'hui, 13%. La Banque centrale de Chine, elle est passée de 3,5% à 4,5% en or.
Oui.
Il y a encore du chemin à faire si on veut arriver à quelque chose qui s'apparenterait à la moyenne. et une simple augmentation de 0,5% de la demande d'or de la part des banques centrales, c'est 50% de la production annuel d'or qui est consommé. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de la demande. Ça, c'est les banques centrales. Oui. Et puis, vous avez d'autres facteurs de demande pour les métaux. Tout simplement, le changement de notre mix énergétique dont on parle tous les jours. Mais un changement de mix énergétique, ça a un impact pour la demande de métaux. Aujourd'hui, c'est 15% de la demande de cuivre qui est consommée pour la transition énergétique. En 2030, ça sera 25% de la demande de cuivre qui sera consommée. Et puis, on parlait tout à l'heure de la Chine, de Xi Jinping, des tensions géopolitique. Aujourd'hui, la solution que nos politiques nous proposent, c'est quoi? C'est le reshoring. On nous dit, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va produire nous-mêmes. Oui. Ben, quand on produit nous-mêmes, ça veut dire qu'on demande des métaux parce qu'il faut construire des usines, il faut construire des infrastructures. Et donc, c'est énormément de demandes qui arrivent de point de vue structurel.
On voit aux États-Unis beaucoup d'usines se construire et se bâtir. Le reshoring, donc, la relocalisation dont on parlait, effectivement, et tout ça, c'est très demandeur. Et du coup, d'ailleurs, on voit par exemple Amazon qui a annoncé l'ouverture Amazon d'un centre tout près d'une centrale nucléaire, comme par hasard, parce qu'il faut de l'énergie aussi pour ça.
Voilà.
Bon, on est ensemble, réunis, c'est le bullshitomètre au cœur de la famille. Vous n'allez pas vous en tirer si facilement, Céline. Sabrina vous interroge.
Oui, j'ai une question pour vous, Céline.
Ah. Allez-y.
Préparez-vous. Alors que les actifs mondiaux, l'or et les mines représentaient 26% des actifs mondiaux en 1981, ça ne nous rajeunit pas. Oui. Et bien maintenant, c'est quoi? C'est 1%. Alors vous pensez que ce sera beaucoup plus
Effectivement, ça mérite plus. Et moi, je trouve qu'effectivement, ce chiffre est fascinant. 26, 1%. Et si on regarde en arrière, en 1921, c'était 28% des actifs mondiaux qui étaient dans l'or. Donc on voit bien qu'entre 1921 et 1981, on est resté sur un niveau très élevé d'investissement sur l'or et les minières. Ça faisait partie d'un patrimoine classique pour garder son patrimoine dans le temps. Aujourd'hui, on est tombé à 1%, tout simplement parce qu'on a eu 40 ans de baisse des taux d'intérêt et on a eu d'autres classes d'actifs qui ont remplacé l'or, par exemple l'immobilier qui représente aujourd'hui 37% des actifs mondiaux. Mais je pense et j'en suis convaincue qu'effectivement on a eu de la marge entre les 1 et les 26% et ça me semblerait pas totalement fou de retrouver un juste milieu entre les deux.
Bah d'ailleurs la valeur des mines d'or elle a quand même été multipliée par 17 si mes souvenirs sont bons.
Tout à fait.
Entre 2001 et 2011 et vous pensez que dans la décennie qui va suivre on aura le même mouvement?
Et je pense qu'il effectivement.
Pour les mines, c'est-à-dire que les mines progresseront autant que l'or a progressé, par exemple.
C'est tout à fait possible, parce qu'effectivement, on a un environnement qui, à mon sens, se rapproche beaucoup de celui qu'on avait connu en 2000. Souvenez-vous, en 2000, on ne parlait que de l'Internet si on était sur un plateau de télévision. Or, entre 2001 et 2011, les mines d'or ont fait x17. Eh bien, ce n'est pas le sujet qui était abordé sur les plateaux en 2000. J'étais d'ailleurs analyste sur les mines en 1999 et je peux vous dire que mon téléphone ne sonnait jamais.
Vous étiez bien seul.
Mais on était tout seul alors que mes camarades sur les télécoms avaient un téléphone qui sonnait toute la journée. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt aujourd'hui.
Vous êtes là, vous êtes avec nous.
Donc, réfléchissez. C'était pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, si vous voulez transmettre de l'argent dans le temps pour les prochaines années, à mon sens, ça peut être le moment clé pour investir sur les mines d'or puisqu'elles sont en baisse cette année.
Peut-être un méga-trend donc à venir sur l'univers minier en bourse. On va regarder ça, votre argumentaire très intéressant que vous pourrez, vous tous qui nous suivez, retrouver en replay aussi dans un instant sur notre application BFM Business. Les mines, vous y croyez, mais alors on va aller au bout de votre raisonnement. Je suis investisseur et je vous écoute. Je trouve ça très intéressant intellectuellement, mais comment je passe à la pratique? Dans quelle valeur minière faut-il, à vos yeux, investir, Céline?
Alors, si j'en avais une à vous recommander aujourd'hui, c'est une société qui s'appelle Newmont. C'est tout simplement la plus grosse. C'est la fusion de Newmont et Newcrest. C'est quasiment 10% des réserves d'or dans le monde. Et tout à l'heure, vous aviez un très bon point. Vous parliez du risque géopolitique et des juridictions. Newmont, c'est une société qui est très présente en Amérique du Nord. C'est 48% de ses réserves en Amérique du Nord et 25% de ses réserves en Asie. Donc, des juridictions plutôt stables. Ce qui est un élément important quand on parle de minière. Donc, une visibilité de ce côté-là et une société qui profite également d'une baisse de ses coûts d'exploration du fait de la fusion avec Newcrest, des synergies de fusion qui vont permettre aux coûts de baisser à un moment où, comme je le disais, on peut avoir des revenus qui progressent et une société qui se traite aujourd'hui à 14 fois les bénéfices. Donc, une valorisation qui est très faible pour un leader mondial qui va avoir, à mon sens, des résultats qui vont progresser de façon spectaculaire. Donc, une société qui devrait être, si on se souvient des conseils de nos grands-parents et arrière-grands-parents, qui devrait être un cœur de portefeuille pour nos téléspectateurs pour les prochaines années.
L'économie de demain, enfin, qui commence déjà maintenant à se mettre en place, l'économie la transition énergétique et l'intelligence artificielle, ben, pour nourrir cette économie, il va falloir faire appel c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, l'économie du passé, à savoir effectivement pourquoi pas les valeurs minières dans vos portefeuilles. Voilà, c'est l'idée. Donc Newmont que vous aimez bien, peut-être un mouvement de concentration à venir par ailleurs dans le cuivre. On se souvient de l'offre de BHP sur Anglo-American, c'est il y a quelques jours. Anglo-American l'a refusé en estimant que cette offre était insuffisante, le niveau était trop bas. Voilà, donc on va voir tout cela se développer aussi. Merci beaucoup. Céline Pikmalprad, le bullshitomètre.